When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Salut à tous et bienvenue sur Séances Radio, c'est Fan Footage, le podcast épisode 6 pour une émission très spéciale les amis, puisque nous sommes depuis le restaurant Le Grand Breguet dans le 11e arrondissement de Paris, où nous sommes confortablement installés au milieu de l'arcade bar Ready Player One, qui est, vous l'avez sans doute vu passer sur les internets, l'installation rétro gaming mise en place à l'occasion de la sortie du nouveau film événement de Steven Spielberg. Je veux bien évidemment parler de...
le fameux Ready Player One que vous attendez toutes et tous.
Merci de suivre. Merci Pierre, il n'y a que toi qui suis. Vous l'avez entendu, hein. Pierre Delors de Fan Footage, le Mogwai de Fan Footage.
Ah merci, pelucheux et mignon, c'est ça.
Oui, et c'est surtout qu'il ne faut pas te filer à bouffer après minuit, parce que je te connais bien.
Ouais. Merci.
En face de toi, nous avons Ilan McFly
de Retour du Futur.
Ilan Ferry de Ciné Vibe, ça va Ilan?
Oui, et toi?
Tu as vu à tes côtés, tu as le Biff Tannen de la critique également. Simon Rayo.
Bonsoir Thomas.
Simon Rayo d'écran large, ça va Simon?
Oui, ça va très bien. Bon. Je viens aussi, je suis un petit mogwai, hein. Là j'ai commencé à boire, donc je vais multiplier, ça va bien se passer.
Il va pas finir dans le fumier.
Oh là,
c'est pas gagné encore.
C'est pas gagné, effectivement. Bon, vous avez vu, on est en pleine forme, donc on y retourne. Retour dans l'Oasis. Back
c'est
to
parti.
The Oasis. C'est parti.
Bon. Cette mission, c'est quoi?
De duel au bon gros géant, passant par Jaws, E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, Minority Report, Lincoln ou encore le récent Pentagon Papers, Steven Spielberg revient au grand spectacle de science-fiction avec Ready Player One, adaptation du roman éponyme signé Ernest Cline qui prend place en 2045. Nous sommes dans un futur dystopique et nous y suivons le jeune Wade, incarné par Ty Sheridan, qui passe son temps dans l'Oasis, un univers virtuel où chacun s'y réfugie pour y vivre une aventure extraordinaire en compagnie des plus grandes figures de la pop culture. Mais lorsque le fondateur James Hallyday décède sans héritier, ça s'invente pas, hein. Une immense chasse au trésor est alors lancée et celui qui découvrira les trois clés cachées dans l'Oasis remportera sa fortune de 500 milliards de dollars. Nous sortons de la projection presse. Chacun d'entre vous a bien gardé nos shows, son ressenti jusqu'à ce podcast. Donc avant de vous laisser la parole, je vais ouvrir le bal en disant que le film m'a... je trouvais ça absolument démentiel, car au-delà du concept, pour moi c'est une proposition de cinéma extrêmement importante et personnellement je ne m'attendais pas à revivre une telle expérience depuis Avatar et Mad Max Fury Road. J'essaye de peser mes mots depuis que j'ai vu le film, j'ai beaucoup de mal, mais c'est mon ressenti, je sais pas ce que vous en pensez, qui veut commencer? Simon.
Volontiers. Alors moi j'aurais beaucoup de mal à dire des choses et à positionner le film comme tu l'as fait, non pas parce qu'il me déplaît, au contraire je le trouve assez passionnant, mais il est d'une telle densité et d'une telle richesse que même si j'ai plein de choses à en dire et qu'il déclenche plein de choses chez moi, moi j'aimerais beaucoup le revoir encore au moins une ou deux fois avant de m'avancer comme ça, parce que
oui on est d'accord,
c'est un film qui est très linéaire dans sa narration mais qui est extrêmement riche dans ce qu'il déploie en termes d'images, de symbolique, de sens,
d'imprécation,
oui, voilà, d'iconographie, puis d'imprécation entre réel et virtuel, ce qu'il dit de Spielberg également, ben voilà, on va revenir sur tout ça, mais donc tout ça fait que le film est assez virtuose et plutôt passionnant. Mais du coup là moi je suis encore en train de le digérer,
en train de dire. Ok, Ilan.
Bah écoute, moi je suis encore un peu dans l'Oasis.
Ouais. Bah tant mieux. Oasis is good.
Ouais, toujours. Ok. Voilà, c'était le placement de produit de l'émission. Hein. Bon, merci Oasis.
Il serait sponsorisé par Oasis. Ou pas.
Bah écoute, moi le film je l'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé, mais en fait ça a été en deux temps. C'est-à-dire que je suis sorti de la projo, j'ai trouvé ça très bien, mais avant de vraiment beaucoup l'aimer, il a fallu un petit peu de temps. Il a fallu que je digère. Il a fallu que je pense à beaucoup de choses. Voilà, déjà la première partie, j'ai adoré. Mm-hmm. J'ai tout de suite été immergé dans l'univers, dans ce qu'il voulait raconter. Je trouvais qu'il disait très bien l'univers qui a été décrit par Ernest Cline dans le bouquin.
Je vais préciser, on va pas spoiler déjà.
Bien sûr.
Et vous deux avez lu le livre, je crois.
Ouais, oui,
Simon,
absolument.
Tout à fait. Vous allez pouvoir nous expliquer un peu le rapport avec le livre. Ouais.
Donc moi j'étais totalement dedans, et surtout en fait ça m'a un peu ramené à ce dont on avait parlé la semaine dernière dans le podcast précédent sur la manière dont les cinéastes arrivaient ou non à comprendre le langage vidéoludique.
Tomb Raider.
Voilà, tout à fait. On en était venu à la conclusion que beaucoup n'y arrivaient pas, mais là je trouvais qu'au contraire justement Spielberg y arrivait très bien. Mmh. Il y avait une espèce de cette manière d'incorporer la narration dans l'action,
le langage.
Voilà. Mmh. Spécialement durant une séquence de course automobile. Bah, c'est marrant que tu aies parlé de Mad Max Fury Road, parce que c'est le premier truc auquel j'ai pensé justement en ce moment. J'ai pensé à Mad Max Fury Road, j'ai pensé à Speed Racer, j'ai pensé à beaucoup de choses. Ouais. Donc j'étais à fond, c'est le cas de le dire. Puis à partir du moment où le film prend ses libertés avec le bouquin, j'ai commencé à chercher à jouer au jeu des 7 erreurs avec le bouquin. Ça m'a un petit peu sorti du film, et à la fin mais j'ai l'impression qu'il y a un problème d'adaptation.
Ah.
Et en repensant à tout ce qu'il a dit, les libertés qu'il a prises, pourquoi elles ont été prises et en quoi c'est cohérent avec sa filmographie, je me suis rendu compte qu'en fait non, il n'y avait pas un problème d'adaptation, c'est tout le contraire. Et en fait, je l'ai trouvé très bien dans sa manière de digérer le bouquin originel et de se le réapproprier.
Du coup, est-ce qu'il transcende le récit originel?
Alors, transcende, oui, d'une certaine manière, mais je préfère dire qu'il se le réapproprie.
D'accord.
Qu'il en fait vraiment quelque chose de personnel.
Ok, Pierre, à toi.
Bah écoute, je vais essayer de faire bref, parce que je pense qu'on va revenir dans les détails tout au long de l'émission sur ce qui nous a plu ou déplu peut-être, en tout cas pas pour moi, dans le film. Moi, le film m'a énormément impressionné, et je vais reprendre une phrase. On était tous les deux d'ailleurs à la Projo, enfin on était tous ensemble à la Projo, et j'avais aussi un ami, Mathieu, que je vais citer, à qui je dois cette merveilleuse phrase, et il m'a dit en sortant de la séance, j'ai l'impression d'avoir vécu un voyage et d'être parti de quelque chose avant la séance et d'être arrivé quelque part après ce film. J'ai l'impression d'avoir vécu une expérience, d'avoir voyagé, et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Il m'a même fallu du temps, moi, pour sortir de cette aventure. Et c'est un film, alors il y a beaucoup de choses, hein. Spielberg, c'est pas innocent, hein, que Spielberg fasse Ready Player One aujourd'hui. Il a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire sur le film, mais c'est sûr qu'en plus, moi qui suis un joueur, le film ne parle pas que de jeux vidéo, attention, hein, mais moi qui suis en plus un gamer depuis l'enfance, j'ai aussi pris ça de manière très personnelle. Ça m'a beaucoup touché, j'ai revu beaucoup de choses de ma jeunesse, de moi devant mon écran, dans ma chambre, etc. Et ce qui m'a aussi énormément plu sur ce film, c'est contrairement à beaucoup de réalisateurs qui parlent de jeux vidéo de manière assez cynique, on sent que, bon, Spielberg est un joueur, on le sait, mais on sent que derrière ça, il y a beaucoup de bienveillance, en fait. Mmh. Vraiment, mais c'est le mot.
Il aime ça, tout simplement. Il n'a pas une idée préconçue de ce que c'est qu'un joueur,
exactement,
de ce que c'est qu'une communauté de joueurs et de ce que sont les jeux vidéo. C'est un joueur. Il faut savoir que Spielberg a compté parmi les tout premiers joueurs en réseau qu'il a dépensé un pognon monstrueux pour pouvoir jouer en réseau avec Robin Williams au tout début de quand c'est devenu techniquement possible. Il a produit des jeux vidéo, enfin voilà, c'est un joueur de très longue date et il connaît ça, on va dire, intimement. C'est un sujet qui l'intéresse au premier chef depuis très longtemps.
Il y a eu des tentatives de même participer à la création de jeux vidéo et ça n'a pas abouti. Mais donc je termine, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, et c'est un film, voilà, c'est un film extrêmement généreux, et ça m'a bouleversé.
Est-ce que selon vous, parce que c'est la question qui revient souvent quand j'en parle de ce film-là auprès du grand public, qui sont extrêmement craintifs de ce type de film, à cause justement du concept sur la nostalgie qui est vendu comme ça, il faut bien vendre le film d'une certaine manière, voilà. Il y a pas de souci, je peux comprendre. Mais est-ce que on peut dire aux gens que Spielberg apporte ce fameux recul définitif d'une certaine manière sur le paysage cinématographique hollywoodien actuel, entièrement basé sur la nostalgie?
Alors définitif, j'en sais rien, parce que par définition, il y a toujours quelqu'un qui pourra aussi. Enfin, c'est pas parce que Spielberg fait un film assez passionnant sur ces questions que quelqu'un d'autre ne va pas en faire aussi. Définitif, à mon avis, faut pas dire ça. En revanche, il faut apporter deux informations, parce que la promotion du film a été très très mensongère. Il faut apporter deux informations aux gens qui nous écoutent. Premièrement, ça n'est pas un film sur la nostalgie des années 80. C'est
un
film qui étend sa nostalgie, en gros, de Ray Harryhausen à League of Legends. Ouais. Donc, il y a un prisme qui est énorme et qui n'est pas la nostalgie des années 80, ni même la nostalgie de la culture pop. C'est la culture populaire du 20e siècle et du début du 21e. Et ensuite, ça n'est pas un film nostalgique, c'est un film sur la nostalgie. C'est un film qui parle de héros qui regrettent et adulent une époque qu'ils n'ont pas connue. plus. Donc ça interroge ce que c'est que la nostalgie, comment on l'inocule aux gens, qu'est-ce qu'ils en font et comment est-ce qu'on fait des objets de ces gens via la nostalgie. C'est un film qui traite de ces questions-là mais qui n'est pas du tout nostalgique.
D'accord. Ça c'est passionnant, excuse-moi, c'est passionnant et c'est hyper contemporain et il y a une vraie observation de la société, je trouve, dans le regard de Spielberg. Je sais plus qui a écrit le scénario, je sais pas si
Zach Penn.
Et justement, et moi je retrouve ça, moi qui traîne beaucoup dans les, qui ai beaucoup traîné dans les jeux en ligne, etc. Le nombre de références dans les pseudos, dans les avatars, et en fait là il y a toute cette génération qui en plus se situe, donc le film se passe dans les années 2050, il me semble que c'est ça, hein,
2045,
et ils réutilisent, et dans l'Oasis ils ont l'image de personnages de la pop culture qu'ils n'ont jamais connu, et aujourd'hui c'est quelque chose qu'on on voit exactement, c'est plein de jeunes qui s'échangent des mimes sur des Tumblr, des images, des gifs, etc. De séquences de films qu'ils n'ont peut-être jamais vu, ou alors qu'ils ne comprennent pas, ou qu'ils ne peuvent pas remplacer dans le contexte historique. Et là-dessus c'est très pointu, ça m'a même on peut l'attendre de Spielberg, hein, mais ça m'a même surpris, tu vois.
D'accord. Mais justement, quand je parlais de les problèmes d'adaptation qui n'en sont pas un, contrairement au bouquin qui regorge à la gueule de références, toutes les 10 pages, on en a une centaine, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Spielberg a eu l'intelligence vraiment de décrémer tout ça
Excuse-moi, je te coupe, parce qu'il y avait quand même pas des très très bonnes critiques à propos du film. On disait que c'était un très bon page turner, mais quand le projet a été annoncé entre les mains de Spielberg, parce qu'il y a plein de cinéastes qui sont passés sur le projet, mais quand Spielberg s'est emparé du projet, il y avait une forme de crainte par rapport à ce livre-là qui n'était pas non plus incroyable, quoi.
Non, c'est pas fondé quand tu vois le film, et surtout quand tu le compares au bouquin.
Faut rappeler aussi un peu comment Spielberg bosse avec la matière scénario. C'est-à-dire que pour moi, le bouquin est un bouquin que je trouve très sympa, hein, très sympa, mais c'est pas un très grand livre, c'est pas très bien écrit, c'est pas très intéressant, c'est pas très profond. Mais quand on regarde avec qui Spielberg a travaillé comme scénariste, il est loin d'avoir toujours travaillé avec de très grands scénaristes, et il a fait quelques-uns de ses très grands films avec des scénaristes, j'ai envie de dire, très fonctionnels. Spielberg, il a besoin qu'on lui donne une structure carrée, une structure efficace, sur laquelle lui va pouvoir créer du langage, créer de la grammaire cinématographique. Mais le scénario, pour lui, voilà, lui donne un cadre de jeu. Moi, c'est pas un truc qui m'a inquiété, dans le sens où on l'a vu plein de fois tirer de très grands films, de scripts dont je suis pas convaincu qu'ils étaient absolument passionnants. Le scénario d'Arrête-moi si tu peux, s'il n'est pas réalisé par Spielberg, c'est pas un scénario qui sent le génie, hein, par exemple. Et le film est absolument dément. Donc c'est une remarque, à mon avis, qui faisait preuve un peu d'une méconnaissance de comment fonctionne le cinéma de Spielberg.
Oui. Mais je pense que de toute manière que, enfin moi j'ai pas fait partie de ces gens-là justement qui disaient oh là là, c'est très inquiétant qu'ils s'emparent de ce bouquin, parce que déjà d'une je l'avais pas lu, et que j'ai une confiance aveugle, et je rejoins exactement ce que tu viens de dire sur la matière qu'on lui fournit et comment lui se la réapproprie, et comment lui, avec son regard d'auteur propre, transcende d'une certaine manière.
Oui, puis il en a fait quelque chose de très personnel. Je vais absolument pas spoiler, mais en fait le film m'a vraiment cueilli à la fin, parce qu'à la fin il pose des questions qui sont très intéressantes. Enfin, il y a une piste qui aborde qui est extrêmement intéressante, et là je me suis vraiment dit, c'est pas une adaptation d'un bouquin d'Ernest Cline, c'est vraiment un film de Spielberg, et j'ai beaucoup aimé la façon dont il en fait quelque chose de personnel,
parce que moi j'ai ce sentiment quand même que la nostalgie, les figures de la pop culture qu'il réutilise ne sont finalement qu'un prétexte. Pour moi ça passe vraiment au second plan. Moi je l'ai vu vraiment comme un objet cinématographique, mais je le disais dans mon intro tout à l'heure, vraiment important, au même type qu'Avatar, parce que tu veux dire quelque chose, excuse-moi.
Vas-y, termine.
Non, parce que pourquoi important dans la fusion du cinéma réel au virtuel. Il y a notamment une séquence, mais moi qui m'a. On raconte pas, mais qui m'a en tant que cinéphile, qui m'a fait battre le cœur, mais
quelque chose qu'on peut dire sans spoiler. Moi j'ai vu pas mal de remarques de gens qui avaient vu donc des bandes annonces, des extraits, s'inquiéter un peu du rendu des effets spéciaux. Et ben il y a peut-être quelque chose à dire par rapport à cette scène que tu évoques, dont on va pas dévoiler la teneur. Tout simplement, il y a une vraie volonté du film de bien marquer la différence a priori entre le réel et le virtuel, et c'est une frontière qui va s'effacer dans une scène, on va dire dans du second acte,
incroyable,
qui est une scène de cinéphilie, et où il y a un travail sur le photoréalisme, et qui est un hommage à un immense cinéaste qui aime beaucoup Spielberg, qui est incroyable, démentiel. Techniquement, ce qui est fait et relève du.
C'est
du
moi, j'ai eu beaucoup de mal à re-rentrer dans le film derrière. Enfin, pas parce que. Parce que j'avais l'impression de vivre un rêve éveillé. Je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, non, il n'a pas osé faire ça, il l'a fait. c'est absolument incroyable. J'étais à deux doigts de chialer.
Alors, si je peux me permettre d'intervenir sur le sujet, je sais que juste avant d'enregistrer avec Simon, on a évoqué vite fait le fait que des gens trouvaient que Ready Player One avait été complètement révolutionnaire, du jamais vu, etc. Et on est tous d'accord pour dire que bon, ça va, restons sobres. Mais sur cette séquence, donc, je ne vais pas dévoiler ce que c'est, je vais simplement dire que les personnages du film se retrouve immergé au cœur d'une œuvre cinématographique, une œuvre pop culture. J'en dis pas plus. Moi, cette séquence...
Que les personnages, moi, je te coupe, mais que les personnages, il est important de le préciser, soient en performance capture, en motion capture.
Ouais, les personnages sont en motion capture. Et ben ça, malgré tout pour moi, je trouve que la Spielberg nous offre peut-être un aperçu de l'évolution de la narration et du cinéma, de l'expérience audiovisuelle. Parce qu'on est vraiment dans cette représentation, on le voit à l'écran, du personnage, du spectateur, du joueur, qui peut enfin habiter ou explorer ses œuvres culturelles favorites. Et surtout, l'image est quand même extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on a un personnage à moitié robotique, immense, cyborg, presque cartoonesque, qui se retrouve dans un univers ultra réaliste qu'on ne va pas dévoiler. Enfin, l'image est quand même, quand on y repense deux secondes, l'image est dingue. Je ne me souviens pas avoir vu ça ailleurs.
C'est la capacité de Spielberg à rendre ça cohérent.
Oui, exactement.
Ça pourrait quand même être un horrible gloubi-boulga.
Oui, parce que c'est un vrai outil narratif.
Enfin, sur le papier, moi, j'imagine le directeur des spéciaux qui lit ça et qui se dit OK. Et donc, il va falloir qu'on rende ça visible. Ça va être compliqué. Et voilà, le film a une élégance, même dans ses outrances, même dans ses moments de gigantisme, dans ses passages les plus effrénés. Le film a une élégance et une tenue visuelle qui force un peu le respect.
Et une humanité toujours qui perd jamais de vue, quoi.
Oui, non, mais j'ai un peu à rebondir sur.
Est-ce que tu es d'accord déjà sur cette partie de cette fameuse séquence?
Non, je vois très bien de quoi vous parlez. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça renvoie aussi à un sentiment que moi j'ai eu pendant tout film et qui renvoie à ce rapport au langage vidéoludique. C'est que pour une fois on a aussi l'impression non pas d'être spectateur du film mais d'en être acteur, c'est-à-dire que même dans ces passages les plus les plus impressionnants, on va dire, on n'a jamais cette impression, c'est-à-dire ah tiens, il est où le pad, parce que ça ferait un super bon jeu vidéo, j'aimerais bien jouer. On a l'impression d'être totalement immergé dans cet univers. Et j'aimais être acteur, effectivement. On a parlé de voyage, d'avoir fait un voyage, d'être totalement immergé, la frontière entre réel et réalité, ce qu'interroge aussi le film. Parce que le film aussi interroge notre rapport à l'image, au réel, aux écrans. Et voilà, donc je trouve que c'est un film somme là-dessus.
Oui, parce que, alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, alors, on va préciser qu'on a vu le film en 2D.
Ouais.
Et
malheureusement,
ce langage justement vidéoludique extrêmement poussé que Spielberg emploie, c'est là où je l'attendais moi aussi au tournant. C'est qu'est-ce qu'il raconte sur le futur du jeu vidéo, sur la VR notamment. Et c'est en ça que je me dis, on peut être face à une sacrée mise en abîme si, alors moi je retourne à le voir, mais si on le voit en 3D cette fois-ci, tu vois, dans les meilleures conditions possibles, en 3D, en IMAX 3D, voire là, je pense qu'on va avoir une mise en abîme totale, mais vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai très très hâte de le revoir en 3D justement.
Alors écoute, c'est tout à fait possible. Moi je suis très curieux, moi aussi, de le découvrir en 3D. Après, ce qui m'intéresse le plus, et moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il avait partiellement expérimenté dans Tintin, et qu'il était sûrement allé, on va dire, retravailler du côté de chez Devakovsky. Ce qui, moi, me semble intéressant, et là où je crois il comprend ce que c'est que la grammaire du jeu vidéo, c'est la grammaire du plan séquence aujourd'hui.
Oui, c'est exactement.
C'est tout le plaisir tout de fait, ne pas avoir un éditeur, un monteur, pardon, excusez-moi, je suis en train de faire des anglicismes dégueulasses. Un monteur en face de soi qui dit bah tiens hop on change de plan, tiens on change de point de vue, tiens on change d'angle, et il comprend ça, il fait donc des plans à rallonge qui sont à la fois extrêmement sophistiqués, incroyablement riches, très construits, mais qui ne s'arrêtent pas. C'est le cas dans la fameuse course que vous avez pu apercevoir dans les bandes annonces.
Oh là là,
c'est le cas dans la séquence qu'on ne va donc toujours pas vous décrire, mais il y a comme ça des plans qui durent, des plans complexes, et pour moi il arrive à capter quelque chose de l'esthétique et je dirais de la philosophie du jeu vidéo en cela qui, c'est pour ça que tu disais voilà, j'avais pas juste l'impression d'avoir un pad dans la main, j'étais dans un jeu, parce que oui, il a compris que quelque chose du vertige du jeu vidéo, c'était justement cette image, cette narration qui ne s'interrompt pas ou qui ne s'interrompt
exactement.
Plus.
Et le film enchaîne pas mal de petits plans séquences. Spielberg, il a toujours l'habitude de faire des plans séquences, hein, mais qui généralement sont pas très longs, c'est une minute trente, grand maximum. C'est toujours des plans magnifiques, assez discrets, c'est pas quelqu'un qui attire l'attention sur ses plans séquences, hein. Mais cette fameuse scène de l'autoroute, là, de la course-poursuite, pour le coup, tu disais que tu voudrais le voir en 3D, je serais curieux de la voir en 3D. Et il y avait des moments dans cette séquence où, en fait, soudainement, il opérait un zoom extrêmement rapide sur un détail de l'image, comme justement pourrait l'être dans un jeu, tu repères quelque chose, un détail dans tout le chaos, là. Cette scène, elle est extraordinaire. Et tu rentres dans le film un petit peu avec ça.
C'est l'ouverture.
Ça m'a bluffé. Hein.
C'est l'ouverture. On est à 5 minutes de l'ouverture et on se le prend en pleine poire. C'est phénoménal.
Alors, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, enfin, je trouve, de manière, j'ai l'air très fine, non, c'est pas très fin, mais très intelligente, il fait rentrer le jeu vidéo dans le réel. Une parenthèse d'ailleurs, une des belles radicalités du film, je trouve, c'est en fait de ne pas du tout décrire le monde réel. C'est-à-dire que Spielberg, qu'on caricature toujours en cinéaste des bons sentiments, nous dit, ah oui, non, mais attendez, on va pas sauver le futur. Il y a même pas de futur à sauver dans Ready Player One. On peut sauver un monde virtuel, parce que c'est tout ce qui nous reste. Il y a pas de monde à sauver, il y a pas d'écologie à sauver, il y a pas de système politique à sauver, il y a pas de peuple à machin. Non, il y a plus qu'une la société, on est réduite à une société de prolétaires et de sous-prolétaires esclavagisés, et il n'y a rien à sauver de ce côté-là. Par contre, il nous introduit tous des corps à travers un long plan qui se passe donc dans les stacks, c'est-à-dire les piles à oui. Columbia, Ohio, où on va suivre notre héros, et il descend comme ça le long de ce qui n'est pas un immeuble mais un empilement de trailers.
Caravane, oui.
Et en fait, tout simplement, moi, ça me renvoie au niveau, à la structure des niveaux de Kong des premiers jeux 2D, c'est-à-dire qu'il mélange immédiatement un concept social, un concept visuel extrêmement réel, c'est tourné en 35 mm, ça a du grain, très organique, avec en fait une image et une structure qui vient des tout premiers jeux vidéo grand public.
Ouais.
C'est vachement intéressant.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et d'ailleurs, on nous introduit toute une galerie de personnages. Parce qu'en fait, la caméra va donc de bas en haut, elle descend dans tous ces espèces de mobile homes entassés les uns sur les autres. Et on voit.
Cette introduction est assez simple, mais tellement virtuose.
Et on voit tous ces gens qui jouent à l'Oasis de différentes manières, sur leur canapé, dans leur chambre, assis, en train de faire du pole dance, dans la rue. Et comme un petit peu aujourd'hui, on pourrait l'être avec nos téléphones, chacun. C'est une extension.
Oui.
Et c'est là où on sent immédiatement le discours. Parce qu'en fait, ce film, c'est aussi, je pense, un véritable message. On va peut-être rentrer un peu dans le cœur du sujet, un véritable message de Spielberg sur l'état de la pop culture, sur la mainmise corporatiste sur la culture. Et ça, bah, je ne sais pas si Ilan, tu voulais rebondir là-dessus.
Avec le personnage notamment incarné par Ben Mendelsohn.
Ouais.
C'était aussi le...
Qui joue la crapule pour changer.
Qui joue le
c'était aussi le propos du livre, mais ce qui est intéressant, c'est que là, il est diffusé par un mec comme Spielberg qui a contribué justement à populariser cette culture, qui en était un des tauliers, on peut le dire. Donc le fait, son regard sur ce qui est en train de devenir cette pop culture qu'il a initié, ces images qu'il a contribué à imprimer sur notre rétine et qui ont été aussi imprimées dans sa rétine à lui quand il a été enfant, est intéressant parce que ça se fait sans... c'est pas bêta, c'est beaucoup moins gnangnang qu'on pourrait
c'est assez amer,
même si sur le ton il y a parfois quelques légèretés qui diffèrent du bouquin, qui pourraient laisser croire que le message est un peu au ras des pâquerettes, mais quand on y pense, quand on réfléchit à tous les symboles, tout ce qu'il a voulu dire, même les paroles à double sens, il y a des tas de choses qui font que c'est beaucoup moins innocent, beaucoup moins candide qu'on pourrait le croire, et beaucoup plus sévère.
Alors c'est même, je suis d'accord avec toi Ilan, et c'est même politiquement c'est très chargé, c'est-à-dire que sans faire de spoiler, juste pour décrire un petit peu l'univers dans lequel se déroule le jeu, tout le monde court après les fameux secrets disséminés par Hallyday, le créateur de l'Oasis, après sa mort dans le jeu, afin de pouvoir devenir propriétaire de l'Oasis, récupérer la fortune de Hallyday et donc devenir riche en gros, tout simplement, ce qui est un truc dont tout le monde rêve. Et donc il existe des clans et même des corporations, faut comprendre, des majors, hein, c'est clairement des majors hollywoodiennes, qui engagent en fait, ou plutôt esclavagisent des joueurs pour essayer justement de gagner ce fameux concours. Et en fait, ce que ça nous dit, c'est que le joueur, le fan, l'amateur de pop culture est devenu une espèce de lumpen prolétariat, c'est-à-dire un sous-prolétariat esclavagisé qui ne doit sa survie qu'aux classes dirigeantes et qui donc joue contre son propre intérêt en fait, et contre les autres classes de travailleurs. C'est extrêmement intéressant, c'est super dur, c'est super noir comme propos. et on devine quand même qu'il parle comme ça d'une certaine forme de spectateurs qui, on va dire, ont décidé de faire avaleur de sabre et d'avaler la promo, une forme non pas de nostalgie mais je dirais de façon de vendre et de vendre la nostalgie.
C'est ça, oui,
et
que le marketing qui compte maintenant.
Voilà, et en gros il dit bon bah il y a une partie des spectateurs plus ou moins malgré eux qui utilisent toutes ces références non plus comme un héritage qui convient de transformer et d'emmener ailleurs, mais comme un hocher et qui se laisse gaver. Il y a une scène absolument incroyable où on voit donc un personnage, un membre d'une corporation, essayer d'acheter un autre personnage, un jeune, un gamin, en gros en lui vendant des références, en lui disant regarde, t'as vu comme j'ai compris, ouais, toi et moi, oui, on vient du même monde esthétiquement parlant. Sauf que lui, il a une oreillette et il a une armada de nerds en costard-cravate qui sont là derrière.
C'est l'exécutive.
Vas-y, vends-lui ça. Oui, dis-lui que t'aimes ça. Rappelle-lui que c'était dans tel film.
C'est les fameuses exécutives.
Et alors, c'est à la fois très drôle, très marrant, très amer, mais c'est aussi Spielberg qui dit voilà, les mecs, en agitant de manière stérile et presque un petit peu nécrophile certaines idoles que vous n'avez pas envie de faire vivre, en fait, d'incarner, de laisser exister ou de laisser peut-être disparaître, et ben, vous êtes tout simplement en train d'engraisser certaines personnes qui tuent ceux que vous aimez.
Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que du coup, on se rend compte que ce film-là soit produit et distribué par une major, par Warner, qui a un catalogue DC et compagnie qui justement capitalise à max son line-up justement sur des figures de la pop culture. Je l'ai vu comme un gros troll, moi.
Oui, mais attends, ça n'est possible que parce que c'est Spielberg, que parce que le bouquin est un best-seller. Et d'ailleurs, faut pas s'y tromper, hein, Warner vend ça comme un truc, vend ça comme Stranger Things dans les jeux vidéo. Là, les Warner ne vend pas du tout le film pour ce qu'il est.
Mais alors du coup, je rebondis sur ce que t'as dit sur Ben Mendelsohn qui, dans son oreillette, a ses armées de nerds qui lui donnent des conseils. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et très pointu. C'est-à-dire que là, Spielberg, il nous présente ses armées de nerds au service du grand capital. Comment elle s'appelle, cette société? C'est 101 ou...
IOI.
Donc cette espèce d'énorme major complètement déshumanisé, aseptisé, tout est gris, tout est blanc. Et ils ont ces armées de nerds qui travaillent pour eux aux références. Et on sent qu'aujourd'hui, il y a une espèce de marchandisation, est-ce que ce mot existe?
Oui, marchandisation
de la culture geek, de la culture pop. Et en fait, ils sont presque présentés comme les nouveaux érudits, les nouveaux scientifiques. On croyait les mecs dans les films de la NASA, vous savez, quand il faut chercher une solution d'urgence pendant que le pilote est en haut dans l'espace et qu'il faut trouver comment le faire redescendre. Ils sont tous au service, et en fait ils mettent au service leur culture et leur culture et leur amour au service de ces immenses majors. Et d'ailleurs il y a une critique que j'ai pu lire à 2-3 endroits ou que j'ai pu entendre, c'est que on reproche au personnage de Ben Mendelsohn de peut-être, en tant que méchant, de manquer peut-être un petit peu de profondeur, d'être un petit peu un personnage en surface, le méchant assez traditionnel. Et en fait non, je pense que finalement c'est très intéressant parce que au final Ben Mendelsohn, c'est pas Sauron qui veut l'anneau pour diriger la Terre du Milieu, c'est pas un être diabolique qui a un plan pour conquérir la planète, pas du tout. C'est juste un businessman, c'est un mec en costume, c'est un exécutif de studio qui a qu'à faire du pognon, point barre. Et en fait, cette espèce de déshumanisation, c'est-à-dire que son entreprise rachète le crédit de joueurs et les fait travailler pour lui ensuite, c'est quelque chose qui d'ailleurs se passe déjà. Il y a des pays en Chine, aux États-Unis, où ce genre de business model existe. Et là, Spielberg, c'est pas innocent s'il le met en scène dans la pop culture et pour le cinéma. Ça, je pense qu'il y a une vraie mise en garde de sa part. Et même, je sais pas si on va partir là-dessus ensuite, mais c'est pas simplement une mise en garde, à mon avis c'est un appel. Je pense qu'il y a vraiment une main tendue vers le spectateur et vers les joueurs et les geeks, et voilà.
Pour lui dire de se réveiller, c'est ça?
Ouais, pour lui dire de se réveiller. Et en fait, tous ces joueurs qui sont dans la peau d'avatar de la pop culture, une pop culture que d'ailleurs Spielberg a grandement contribué à créer, en fait, l'affrontement final qui va presque sur les terres du Seigneur des Anneaux, on va pas dire ce qui se passe, mais en fait, ce qui m'a... Là, moi, j'ai été très touché, j'avais presque les larmes aux yeux, c'est que tous ces joueurs, tous ces personnages se battent tous ensemble, en fait. Il y a presque un appel au rassemblement, à la révolte. Ça, c'est fort, c'est extrêmement fort, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de ça.
Bah oui, mais parce que c'est un peu, je veux dire, c'est problématique. C'est quand même c'est un film qui, moi, je trouve ça extrêmement sympathique, mais qui est suffisamment, on va dire, courageux ou kamikaze pour taper sur une partie de son public, hein. Ouais. Qui dit quand même à une fraction de son public, les mecs, vous êtes quand même des gros cons. Hein, on va pas se mentir, vous êtes des gros cons, mais vous pouvez être sauvés. Et d'ailleurs, symboliquement, c'est quand même pas anodin. S'il réserve, encore une fois, on est dans le symbole, hein, bien sûr. Je veux dire, il réserve à l'Holocauste, c'est-à-dire au sacrifice par le feu, une grande partie de la pop culture.
Oui, oui.
Et il dit, c'est son destin. La seule façon de la sauver, veut, c'est de la détruire. Et il encourage des gens qui aujourd'hui sont des consommateurs à être des acteurs. Il dit pas que la nostalgie c'est mal. Il dit que la nostalgie c'est bien si ça sert à quelque chose.
C'est fait à bon escient. Si c'est d'ailleurs il met, à bon escient, ouais.
Je termine, excuse-moi Ilan, je crois que tu voulais parler.
Non.
Et il met toujours en scène les conséquences. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le monde virtuel a toujours des conséquences dans le monde réel, jusqu'à même des traductions littérales. C'est-à-dire que un camion qui bouge pendant que l'autre est en VR ça le bouscule dans le monde réel et du coup ça a une interaction dans le monde virtuel. Il y a une passerelle dans ce qui se passe dans l'un et dans l'autre.
Et ben moi, le final m'a fait penser au final d'Avatar, par exemple. Quand c'est pas le final, pardon, mais il y a une séquence où Jake, justement, est avec Neytiri dans la forêt, etc. Et il est endormi et en fait son personnage.
Ah oui, oui, je vois.
Tu vois cette scène.
Mais Avatar, c'est l'immersion dans un autre monde. Hein. Après tout, c'est pas innocent.
Mais justement, ce qui est vachement marrant, moi, j'exagère volontairement en disant ça, mais je pense que Spielberg a compris un truc qui est fondamental quand on veut parler du virtuel, c'est qu'en fait, le virtuel, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui soit purement virtuel. Quand quelque chose qui ne serait qu'une représentation mentale n'est pas virtuel parce qu'il a déjà une consistance et des conséquences sur le mental de celui qui s'y balade. Donc voilà, il a compris qu'en fait, la seule chose qui était virtuelle, c'est l'idée du virtuel. Il n'y a pas de virtuel. Tout est réel.
Non mais c'est vrai. Mais je ne sais pas si tu voulais réagir, Ilan.
Non, pas particulièrement ça, mais l'une des choses qui m'avait beaucoup plu dans le film, c'est que c'est cette espèce de second degré, en tout cas de recul qu'a le film sur son sujet, que n'a pas le bouquin. Donc, parce que le bouquin est un bouquin qui fonctionne de manière... Enfin, qui fonctionne beaucoup moins par strates que le film en lui-même, qui a moins de recul par rapport au rapport que nous pouvons avoir sur la nostalgie, sur la pop culture. Et tout ce qu'on a dit là, au fond, qu'enrichit un propos que n'a pas forcément le bouquin, ou en tout cas, qui le traduit assez mal, et que Spielberg a...
C'est un film avec beaucoup de niveaux de lecture.
Traduit. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de digestion du livre et de réappropriation. Donc voilà, tout simplement... Je trouve ça très bien.
Bon, on peut peut-être rappeler qu'il y a un casting assez intéressant.
Ty
Sheridan qui joue Percival. D'ailleurs, c'est marrant que ça s'appelle Percival. Bah bon, ça, je suppose que ça vient du livre, mais Perceval chez Chrétien III, c'était le chevalier. Sa mère l'avait gardé dans la naïveté, dans l'innocence, le plus longtemps possible.
C'est un naïf d'ailleurs.
Naïf, exactement. Il a le destin de Percival.
Mais pauvre couillon, t'es super content d'avoir la veste de Ferris Bueller, t'as les chaussures de Marty McFly, mais t'as rien compris. Et tu engraisses des salopards et tu scies la branche sur laquelle t'es assis et lui qui se dire qu'on pouvait prendre pour un héros spielbergien classique se prend une tarte symbolique dans la gueule mais d'une violence à la moitié du film.
Ouais. Et d'ailleurs il récite comme un érudit, par cœur toutes ses références pop culture à la virgule près, aux chiffres près, aux détails de l'époque. Et en fait il ne comprend les symboles qu'à la fin, quand il a eu son parcours, mais de chevalier de la table ronde de Chrétien III, c'est-à-dire que Perceval, c'est ça, à la fin il finit par partir dans le château chercher le Graal, et c'est exactement ce qui se passe dans le film.
Oui, il y a aussi un truc, vu qu'on est sur les personnages, il y a un truc qui m'a beaucoup étouché et intéressé dans le film, de même que, alors même si ça n'a pas la même importance, hein, dans Pentagon Papers, derrière le film politique, derrière l'exercice de style entre Hitchcock et Pakula, il y avait un discours sur le rôle des femmes dans une société d'hommes et comment elles existent, et une écriture des personnages extrêmement fine, extrêmement réussie. Là, moi, il y a vraiment ici des petites fulgurances. Je pense au personnage de Ash,
oui.
Qui interroge un truc en partant d'un, encore une fois, on va pas le révéler, mais d'un des plus gros clichés sur la notion d'avatar, arrive à interroger le genre et à dire avec une élégance infinie qu'il y a un personnage qui s'interroge sur le genre, sur sa sexualité et sur son identité, tout simplement. Et Spielberg le fait avec une acuité, avec une précision et avec une humanité que je trouve absolument admirable. Et sans être ni dans une espèce de catéchisme bien pensant, ni dans un cahier des charges de son temps, ni non plus dans un espèce de tract militant à deux balles. C'est fait avec un truc qui le caractérise, avec beaucoup de tact et d'humanité.
Waouh, bah on...
Je termine juste sur les personnages. C'est peut-être le seul et unique reproche que j'aurais à faire au film. C'est encore... Je trouve que dans le casting de personnages secondaires... Tous ne sont pas extrêmement intéressants. Il y en a qui passent un petit peu la trappe. Et je dirais même que dans les jeux de comédiens, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu limites.
Il y en a deux qui sont très limités.
C'est un petit peu léger. Et ça, dans quelques scènes, ça m'a dérangé. Hein.
Mais disons, le film n'est pas exempt de défauts. Hein.
Oui, bien sûr. Ouais.
Moi, je l'aime d'amour. Mais il y a notamment, à mon sens, un énorme problème structurel. À tel point que, sans spoiler, hein, mais à une articulation très précise du récit, Spielberg a tellement plus envie de perdre du temps. Son film dure déjà suffisamment longtemps qu'il y a quand même littéralement un truc qui est réglé dans un dialogue. On cherche un objet, il y a un MacGuffin très important. T'as un personnage qui dit au fait, machin l'a trouvé. Ah bon, d'accord. Donc en arrière-plan, pendant qu'on faisait un truc important, machin l'a trouvé. Voilà, le film se permet des raccourcis scénaristiques et des effets d'accélération, des effets de manche qui sont pas très fins, pas très heureux et qui passent uniquement grâce à la maestria de mise en scène de Spielberg.
Jusqu'à ce moment, je te coupe encore, je parle tout le temps.
Vas-y.
J'ai mangé un truc protéiné, du coup, j'ai trop d'énergie. Jusqu'à ce moment qui m'a un petit peu interpellé, c'est-à-dire que le héros Ty Sheridan perd un être cher qui est certes un personnage, il est même pas secondaire, il est tertiaire, mais quand même ça représente quelque chose pour lui.
Symboliquement, il est important.
Et en fait, le personnage disparaît et on n'en parle plus. T'as l'impression qu'il n'y a aucun chagrin, aucun deuil. Ça, j'ai trouvé ça étonnant, surtout venant de la part de Spielberg. Mais je pense qu'il y a un moment, il y a eu des choix qui ont été faits, peut-être des scènes coupées, j'en sais rien, mais des choix ont été faits, il fallait avancer et c'est passé à la trappe.
Alors, vas-y. Je pense qu'il y a des choix qui ont été faits, notamment au niveau de la radicalité du récit. Le livre original est un peu plus radical sur le traitement de certains personnages.
D'accord.
Sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils représentent les uns pour les autres. Il y a des personnages qu'on ne voit pas du tout dans le film, enfin, qui sont à peine aperçus 10 secondes et qui ont une importance beaucoup plus grande. J'ai l'impression que, mis à part le personnage de Ben Mendelsohn, il n'a pas tellement voulu s'aventurer sur le terrain du personnage négatif ou, en tout cas, un peu plus nuancé que la normale. Donc c'est vrai qu'au niveau des enjeux dramatiques, au niveau des relations entre les personnages, ça c'est quelque chose qui m'a déçu parce que j'ai l'impression qu'il manquait, ça manquait parfois de lien, en tout cas entre certains personnages, et c'était un peu survolé.
Alors moi je sais pas vous, mais j'ai été très surpris par les 15 premières minutes avec cette voix off omniprésente. Je trouvais ça extrêmement curieux, enfin étonnant de la part de Spielberg de commencer son film de cette manière-là. C'est quelque chose qu'on voit maintenant de plus en plus et énormément ces 5-10 dernières années sur les blockbusters. On introduit son film par une voix off pour te présenter l'univers, et j'ai pas souvenir qu'un film de Spielberg commence comme ça pendant un quart d'heure par une voix off.
Oui, ça m'a fait penser à une voix off de tutoriel de jeu, moi.
Oui, alors, et puis non, puis il y a aussi des moments, il y a aussi quelques moments, notamment dans la première partie du film, où il y a des petits dialogues explicatifs. Je pense qu'il y avait une vraie peur de Spielberg. Je pense qu'à un moment Spielberg s'est dit, je ne veux pas, on va dire, renoncer à certains délires graphiques, à certaines outrances de mise en scène, et à certaines représentations du virtuel. Mais par contre, il faut que je l'accompagne. Par contre, il faut que je sois didactique. Oui. Et si je veux pas, et déjà que c'est un peu le cas. Hein, moi, j'ai déjà, je sais pas si vous avez tous des confrères critiques, mais moi j'en ai qui me disent genre, je sens que c'est pas trop pour ma génération. Moi, je suis pas un gamer. Ouais, sans aucun mépris pour le film.
Ce que je te disais au début du podcast, c'est qu'il y a une crainte.
Je pense que le film essaye de faire le maximum pour ne pas, on va dire, perdre dès le début des gens, et voilà. Et si le film s'autorise à faire des blagues comme celui-là, il a encore fait un truc de campeur, c'est parce qu'il s'autorise aussi à côté à dire genre eh oui, en effet, en 2045 il fait noir sur Terre. Et on n'a pas l'habitude de ça chez Spielberg. On a l'habitude de le voir plus virtuose en termes de pure narration visuelle, mais je pense que là il assure la sécurité.
Je pense qu'il va être clivant visuellement malgré tout, hein. Il y a toute une partie du public, et je dirais même ça va être un peu générationnel aussi. Je pense qu'il y a
tout à fait d'accord.
Pardon, je veux pas faire d'histoire de vieux con, quoi, mais je pense qu'il y a un certain âge, ou en tout cas une certaine partie du public qui va pas supporter, mais qui d'ailleurs probablement ne supporte pas grosso modo la plupart des films à effets spéciaux et à monde un peu virtuel.
Moi, alors pour avoir discuté récemment avec une personne, on m'a dit oh là là, j'ai peur de revivre Speed Racer.
Ah ouais, ça c'est parce qu'ils ont pas compris.
Voilà,
Speed Racer est un chef-d'œuvre, on ne le répète pas suffisamment.
Bon, je pense que
on vit quand même dans un monde où beaucoup de gens pensent que Jupiter Ascending c'est pas joli et que Thor 3 c'est rigolo. Donc,
ça veut tout dire.
Voilà, c'est compliqué.
Et on va peut-être juste avant de terminer, alors rappeler que c'est Alain Silvestri à la musique.
Voilà, j'allais dire parce que quand même,
désolé.
Parce qu'effectivement, un film de Spielberg, c'est évidemment une composition qui l'accompagne. Ce n'est pas John Williams, parce que John Williams n'était pas sur Star Wars, mais sur Pentagon Papers.
Ah oui, voilà. Il a bien fait, parce que c'est une belle sacrée soundtrack.
Et donc c'est Alain Silvestri, Retour vers le futur, etc. etc., qui la signe.
Une petite note. Attends, il y a un moment, Alan Silvestri se permet. À un moment, on utilise un objet comme dans un jeu, un item qui a un rapport avec une certaine franchise. Et Alan Silvestri se permet de glisser quelques notes de Retour vers le futur dans la bande son. J'ai eu des frissons. Là, je pense que toute une partie de la salle a dû avoir des sueurs.
Alors pour le coup, tu vois, je pense que la BO est assez discrète par rapport. Pour le film.
Mais
je pense que
elle fonctionne bien.
Tu l'écoutes, chez toi tranquille avec une bonne installation. Je pense qu'elle fait son petit effet quand même, et que tu te remémores le film.
Non, elle est. Alors discrète, je dirais pas ça. Je dirais qu'en fait, elle s'inscrit tellement parfaitement dans le projet les différentes époques et dans les émotions qu'il convoque. Que oui, on est dans une bande-annonce de Silvestri pur sucre de la grande époque. Et alors moi, j'en profite pour vu que j'ai encore repris la parole pour la kidnapper, pour dire que moi, il y a un truc que je trouve fascinant dans le film, c'est l'autoportrait extrêmement inquiet que Spielberg fait de lui. Oui. Il fait de lui le portrait d'un auteur qui est pas sûr de ce qui va rester de lui, pas sûr qu'en fait les gens aient compris
à travers l'idée, bien sûr,
ce qu'il essayait de faire. Et il y a un moment où on va dire le personnage dont on peut raisonnablement se dire qu'il le représente un peu, même si en fait il est dans tout le film et dans tous les personnages. Le moment où il dit thank you for playing my game, c'est à la fois assez bouleversant, assez sidérant d'humilité en fait. Et c'est un type qui se voit comme un démiurge, mais comme un démiurge qui n'existe peut-être pas, parce qu'il ne sait pas s'il aura des joueurs, des lecteurs, des spectateurs demain. Et c'est très émouvant, je trouve.
C'est pile poil, moi, à ce moment-là, que le film m'a vraiment cueilli et que je l'ai trouvé beaucoup plus profond que ce que je pouvais, ce à quoi je pouvais m'imaginer en fait. C'est un moment Spielberg, pas forcément Spielbergien, mais un moment de magie. Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit que waouh, ouais, en fait, c'est pas du tout ce que j'imaginais, ça m'a pas du tout amené là où je le voulais, mais en fait, là où ça m'amène, c'est encore tellement mieux et tellement plus intéressant. Donc, je trouve ça intéressant que tu en parles.
C'est ça qu'on disait un peu tout à l'heure, il y a beaucoup de niveaux de lecture et il y a un film assez léger, il y a un divertissement d'aventure très passionnant. Il y a à la fois, c'est un film très inquiet, avec un constat de Spielberg sur l'état de la pop culture ou l'état du cinéma. Il y a ses craintes de metteur en scène, mais derrière on sent que malgré peut-être un regard amer sur le cinéma et aussi un espèce de, moi j'ai senti ça comme un appel à la lutte ou à la résistance.
Totalement. Pas qu'un peu.
Spielberg, cinéaste communiste peut-être, la lutte finale, je sais pas. Parce que d'ailleurs c'est la dernière bataille.
Le film est d'inspiration marxiste évidente.
Mais bien sûr. Et malgré tout, derrière ça, il y a aussi le cinéaste qui s'amuse. Et Spielberg s'est vraiment amusé comme un gamin, je pense. Il y a des fulgurances graphiques dans ce film. Il y a des moments. Il y a cette fameuse séquence dont on a parlé tout à l'heure. Il y a cette course-poursuite sur l'autoroute. C'est absolument dément. Mais il y a plein de trouvailles. Par exemple, quand il y a toutes ces espèces d'humains qui sont employés par la corporation, qui sont tous en combinaison, on dirait presque des drones humains, des robots, quoi. Ils sont sur des espèces de plateformes lumineuses. Et on voit des grands jets de lumière quand ils sont tous tués les uns après les autres, ou alors ils font plein de mouvements qui sont hyper chorégraphiés. Il y a ces conséquences dans le monde réel, dans le monde virtuel traduit à l'image.
Il y a un petit côté laser game.
Un petit peu Tron peut-être dans ces mecs, mais c'est passionnant. Hein.
Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. J'avais envie de vous demander quelle note vous lui metteriez, mais sur un level. Level 1, level 10, level 9.
Je vais faire un parallèle avec moi qui étais un grand joueur de World of Warcraft pendant des années. Je pense que Ready Player One est en stuff orange légendaire full set.
Oh là là, alors là tu vois, pour moi je n'ai rien capté parce que tu vois je suis pas du tout gamer, tu le sais très bien. Alors sur une échelle de 1 à 10, tu...
C'est difficile de dire parce que je vais aller le revoir. C'est peut-être pas mon Spielberg préféré, mais de 1 à 10, je sais pas, il est peut-être à 9 ou...
Ouais, tu fais bien de le dire. D'ailleurs, quel est ton Spielberg préféré ?
Voilà, c'est compliqué. Je sais pas quel est mon Spielberg préféré, mais je vais juste dire que j'étais à la dernière nuit au Max ce week-end et qu'ils nous ont diffusé Jurassic Park. J'avais déjà vu au cinéma E.T. et A.I. Et j'ai vraiment redécouvert A.I. Le film a bouleversé. Il est, mais alors, magnifique. C'est une splendeur. J'ai pleuré à grandes larmes.
Ilan ?
Alors, tu veux le level ?
Oui. S'il te plaît.
On va dire que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est du level 8, sachant que je compte revoir le film et idéalement en IMAX. Donc peut-être que la force de l'IMAX va faire IMAX que ça va monter au level 9 par 9,5, mais pour l'instant, je suis sur un level 8.
Simon ? Attends, excuse-moi, quel est ton Spielberg préféré ?
Ah merde, j'ai cru que j'allais y passer. Je vais même pas y couper à ça.
Celui que tu emmènerais sur une plage déserte.
Sur une plage déserte ? Voilà.
À
Eye.
Déjà, Always. Je suis sur une plage déserte avec moi, mais par ça, non.
Ouais, non, mais Vicky Info, lui, tu oublies fort.
Non, pas toi. Non, je dirais, allez, je vais aller dire, je vais dire Jurassic Park.
Ah ouais, mais en même temps, tu t'attendais à quoi? Jurassic Park, c'est normal.
Ouais.
Simon, Level et Spielberg préféré.
Écoute, c'est Level Casino dans Sonic 2, tu vois. C'est il y a de la lumière partout, tu vas à fond et il y a plein de pièces. Non, écoute, j'aurais du mal à te donner une note pour le film parce que je te dis, j'estime que tant que je l'ai pas revu, je l'ai revu à moitié, tu vois.
Ouais.
Donc c'est un immense Spielberg. Je sais pas, c'est un de mes préférés. C'est un des plus riches, me semble-t-il. Quel est mon Spielberg préféré? Ayant découvert Jurassic Park en salle à 7 ans, tu penses bien que voilà.
Okay,
mais ceci dit, avec le temps, moi, il y en a un autre qui se distingue. J'ai énormément d'amour pour La Guerre des Mondes, mais je crois que celui qui me rend le plus fou, c'est Le Temple Maudit.
Ah ouais.
Pour moi, c'est un des plus abstraits, conceptuels, ouais, virtuoses.
Et hyper personnel, en fait.
Oui, mais bien plus, d'ailleurs, bien plus que ce que je veux bien dire.
Je veux pas l'avouer, d'ailleurs.
Qui est, mais d'une démence en matière de mouvement, de construction, de violence. Le film est fou, et si tu veux, à chaque fois que je le revois, je me dis, mais en fait, c'est celui-là, le grand Spielberg caché.
Et d'une noirceur inattendue. Hein.
On l'avait vu, souviens-toi.
On l'avait revu au cinéma, et alors bon sang, ça nous avait mis une claque.
La vache. Oui, c'était pour le... Oui, effectivement, très très bonne copie. Alors moi, Level champignon Mario Bros prend des forces.
On sent que t'es pas trop gamer.
Non, pas du tout. Ça s'entend tant que ça? Non, alors basiquement, je vais le mettre sur une note sur 10, je vais lui coller un bon 9. Je pense que je serais pas loin de lui coller un bon 10 quand je vais le revoir, effectivement, dans des bonnes conditions, en IMAX 3D sans doute. Et pour le Spielberg préféré, je ne citerai donc pas Jurassic Park, qui a été pour moi
le
dépucelage ultime quand j'avais 8 ans. Et alors, je vais me rabattre sur... La dernière croisade.
Ah, j'étais sûr.
Joli.
Bien sûr, évidemment.
La dernière croisade, avec lequel j'ai grandi, tout simplement. Donc voilà, ce sera la dernière croisade.
Et faites-vous plaisir, allez voir le film, allez le revoir. Il y a en plus un milliard de détails à trouver, de personnages, de références. Et je me demande même si Alan Silvestri a pas planqué d'autres petites notes, tu vois, dans sa BO.
Lui aussi, il a des petits easter eggs.
Ouais, c'est un beau puzzle, c'est un beau jeu à découvrir.
Ready Player One, Steven Spielberg, c'est actuellement en salle. Dites-nous tous vos commentaires sous le fichier du podcast sur Twitter, #fanfootage, #ReadyPlayerOne. Bon les amis, il est temps de sortir de l'Oasis.
Oh.
Mais vous reviendrez.
Oui.
Oui. Fan Footage épisode 6, c'est très naturel. Fan Footage, le podcast épisode 6, c'est maintenant terminé. Pierre, à très vite sur Fan Footage évidemment.
À très très vite.
Ilan,
Cinevibe.
À très vite sur Cinevibe. Simon, merci infiniment pour ta première participation.
Ah ben, c'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir.
On te retrouve sur écran large et on espère vraiment te recevoir à nouveau, évidemment.
Moi, tant qu'il y a de l'eau avec de l'alcool dedans.
Parce qu'on boit, ouais, on a tous bu des grands verres de Badois.
Oh là là, ça fait du bien, hein.
Ouais,
avec des petites bulles.
Quel menteur, c'est incroyable. Retrouvez-nous sur séanceradio.fr, SoundCloud, iTunes et toutes les autres plateformes de podcast. On vous dit à très vite pour un prochain film depuis un nouveau lieu. Salut les amis.
Bisous, bisous.
Allez, ciao.
Au revoir.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.